4. Quand Hodges ouvre la porte d'entrée, la première chose que repère Jérôme est le Colt dans le harnais d'épaule. « Vous comptez tuer personne avec ça, si ?»«
Non, je crois pas. Dis-toi que c'est un porte-bonheur. Il appartenait à mon père. Et j'ai un permis de port d'armes dissimulé, si c'est ce que tu veux savoir. »«
Ce que je veux savoir, » répond Jérôme, « c'est s'il est chargé ou pas. » »«
Bien sûr qu'il l'est. Comment tu crois qu'on s'en sert ?»
En le lançant ?
Jérôme soupire et frictionne sa boule de cheveux noirs.
Ça devient costaud.
Tu hésites ? Si t'hésites, fais demi-tour, tout de suite. Je peux encore louer une bagnole.
Non, je suis partant. C'est pour vous que je m'interroge. C'est pas des poches que vous avez sous les yeux, c'est des valises.
Ça ira. C'est aujourd'hui mon jour, de toute manière. Si j'ai pas réussi à remonter jusqu'à ce mec d'ici ce soir, j'irai tout raconter à mon ancien coéquipier.
Ça va vous coûter cher ?
Je sais pas, et je m'en fous.
Et moi, ça pourrait me coûter cher ?
Non. Si je pouvais pas te garantir ça, tu serais en première heure d'algèbre en ce moment.
Jérôme le toise avec pitié.
L'algèbre, c'était il y a 4 ans. Dites-moi ce que je peux faire.
Hodges le lui dit. Jérôme est d'accord, mais dubitatif.
Le mois dernier, et je vous interdis de raconter ça à mes parents, moi et des copains, on a essayé de rentrer au Punch and Judy, la nouvelle discothèque qui vient d'ouvrir. Le videur n'a même pas regardé ma belle fausse carte d'identité. Il m'a juste viré de la file et m'a dit d'aller m'acheter un milkshake.
Hodges lui dit, « Ça m'étonne pas, tu fais 17 ans. Mais heureusement pour moi, à la voix, tu en fais bien 25. »
Il glisse à Jérôme un bout de papier où est noté un numéro de téléphone.
« Vas-y, appelle. »
Quand elle lui répond, Jérôme explique à la réceptionniste de chez Vigilant Guard Service qu'il est Martin Lounsbury, assistant juridique au cabinet d'avocats Canton, Silver, Makepeace et Jackson. Il raconte qu'il travaille actuellement avec George Schrond sur les derniers détails en suspens de la succession de feu Olivia Trelawney. L'un de ces détails concerne l'ordinateur d'Olivia Trelawney. Son boulot du jour est de localiser le spécialiste en informatique qui en assurait l'entretien.
Et peut-être l'un des vigiles employés dans la zone de Sugar Heights pourrait-il l'aider à retrouver ce technicien.
Hodges lui adresse un signe d'approbation en formant un cercle avec le pouce et l'index et lui passe une autre note.
Jérôme la lit et dit « L'une des voisines de Mrs. Trelawney, Mrs. Ellen Wilcox, nous a parlé d'un certain Rodney Peoples. »
Il écoute, puis hoche la tête.
« Rodney, d'accord. Intéressant comme nom. Peut-être pourrait-il m'appeler, si ce n'est pas trop lui demander. Mon patron est un vrai tyran, et j'ai comme qui dirait le pistolet sur la tempe, là. »
Il écoute.
Oui, ah, c'est formidable. Merci beaucoup.
Il donne à la réceptionniste son numéro de portable et celui du fixe de Hodges, puis il raccroche en essuyant une sueur factice sur son front.
Ouf, soulagé que ce soit fini.
Tu t'es bien débrouillé, lui assure Hodges.
Et si elle appelle Canton, Silver et compagnie pour vérifier ? Et qu'on lui répond qu'ils n'ont jamais entendu parler de Martin Lounsbury ?
Son boulot, c'est de passer des messages, pas d'enquêter à leur sujet.
Et si ce Rodney machin vérifie, lui ?
Hodges ne pense pas qu'il le fera. Il pense que le nom d'Hélène Wilcox l'en empêchera. Quand il avait parlé à Peoples ce jour-là, devant la demeure de Sugar Heights, il avait capté de fortes vibrations indiquant que la relation de Peoples avec Ellen Wilcox avait dépassé le stade purement platonique.
Peut-être tout juste, peut-être largement.
Il pense que Peoples donnera à Martin Lounsbury ce qu'il demande pour avoir la paix.
« On fait quoi maintenant ?» demande Jérôme.
Ce qu'ils vont faire, c'est ce que Hodges a passé au moins la moitié de sa carrière à faire.
Attendre.
Combien de temps ?
Jusqu'à ce que Peoples ou un autre de leurs gorilles nous appelle.
Parce que là, tout de suite, Vigilant Guard Service semble être sa meilleure piste. Si elle ne donne rien, ils devront se déplacer jusqu'à Sugar Heights et commencer à interroger les voisins.
Une perspective pas très réjouissante, surtout compte tenu de sa célébrité actuelle sur les chaînes de télé.
Entre-temps, voilà qu'il se surprend à repenser à Mr. Bowfinger et à Mrs. Melbourne, sa voisine d'en face un peu perchée. Avec ses histoires de 4x4 noir et sa passion pour les soucoupes volantes, Mrs. Melbourne
aurait été parfaite dans le rôle de l'excentrique dans un vieux film d'Hitchcock. « Elle pense qu'ils sont parmi nous », avait dit Bowfinger en faisant frétiller des sourcils moqueurs. Et bon sang, pourquoi faut-il que cette phrase continue de ricocher dans la tête de Hodges ? Il est 10h10 quand le portable de Jérôme sonne. Ils sursautent tous les deux aux premières notes de Hell's Bells d'ACDC. Jérôme l'attrape. « Inconnu, je fais quoi, Bill ?»
Réponds, c'est lui. Et souviens-toi qui tu es.
Jérôme appuie sur « Accepter » et annonce. « Bonjour, ici Martin Lansbury. »
Écoute.
« Ah, bonjour, Monsieur Peoples. Je vous remercie infiniment de me rappeler. »
Hodges gribouille un nouveau mot et le pousse vers lui. Jérôme le parcourt rapidement des yeux.
« Oui. Mrs. Wilcox n'a eu que des éloges à votre égard. Des éloges, vraiment. Mais le travail qui m'occupe concerne la défunte Mrs. Trelawney. Nous ne pouvons boucler sa succession tant que nous n'avons pas inventorié le contenu de son ordinateur. Et oui, je sais que cela remonte à plus de 6 mois. Terrible, n'est-ce pas, la lenteur de l'administration pour ces choses-là? Nous avons eu un client l'an dernier qui a dû demander des coupons alimentaires alors qu'il était en attente d'un héritage de $70,000.
« T'enflamme pas, Jérôme, » pense Hodges. Son cœur tambourine dans sa poitrine.
« Non, rien de comparable. J'ai juste besoin du nom du gars qui venait en assurer la maintenance. Le reste est du ressort de mon patron. »
Jérôme écoute, sourcils étroitement froncés.
« Vous ne pouvez pas. Ah, main !»
Mais Peoples a repris la parole. La sueur sur le front de Jérôme n'est plus imaginaire. Il tend la main par-dessus la table, attrape le stylo de Hodges et commence à écrire très vite. Tout en écrivant, il entretient la conversation d'un filet régulier de « Mm-hmm » et de « Ok » et de « Je vois ». Finalement,
« Ah, c'est formidable, absolument formidable. Je suis sûr que Mr. Schron saura en tirer profit. Vous avez été d'une grande aide, Monsieur Peoples. Alors je vais… »
Il écoute encore.
« Oui, c'est terrible. Je crois que Mr. Schron s'occupe de… certains aspects de cette affaire en ce moment même. Mais vraiment, je n'en sais pas d'avant. Ah oui, waouh, Monsieur Peoples, vous avez été formidable. Oui, je transmettrai. Je n'y manquerai pas. Merci, Monsieur Peoples. »
Il coupe la communication et presse la base de ses paumes contre ses tempes, comme pour stopper une migraine.
Waouh, c'était intense. Il voulait parler de ce qui s'est passé hier et me dire de transmettre aux proches de Janet que Vigilante est à leur service pour leur apporter toute l'aide possible.
C'est parfait. Je suis sûr qu'il aura droit à des félicitations dans son dossier. Mais…
Il m'a dit aussi qu'il avait parlé au type dont la voiture a sauté hier. Il a vu votre photo aux actualités ce matin.
Ce n'est pas une surprise pour Hodges, et dans l'instant, il s'en fout.
T'as un nom ? Dis-moi que t'as un nom.
Pas celui du technicien informatique, non. Mais j'ai le nom de la boîte pour laquelle il travaille. Ça s'appelle Cyberpatrouille. Peoples dit qu'ils tournent en coccinelle vert fluo. Il dit qu'ils sont tout le temps à Sugar Heights et qu'on ne peut pas les louper. Il a déjà vu un homme et une femme au volant, entre 20 et 30 ans tous les deux. Genre lesbienne, il a dit de la femme.
Hodges n'a pas envisagé une seule seconde que Mr. Mercedes puisse en fait être une Mrs. Mercedes. Il suppose que c'est techniquement possible. Et ça ferait un bon dénouement dans un roman d'Agatha Christie. Mais là, on est dans la vraie vie.
Il t'a dit à quoi ressemble le type ?
Jérôme secoue la tête.
Viens dans mon bureau. Tu peux conduire mon ordi pendant que je fais copilote ?
En moins d'une minute, ils sont devant une rangée de 3 coccinelles vertes avec Cyberpatrouille peint sur les portières. Ce n'est pas une société indépendante, mais une branche d'une chaîne appelée Discount Electronics qui a un gros magasin en ville. Il se trouve dans le centre commercial de Birch Hill.
« Merde ! J'y ai déjà acheté des trucs, » dit Jérôme. « Plein de trucs. Des jeux vidéo, des composants d'ordinateur, des films de karaté en solde. »
Sous la photo des coccinelles, on peut lire « Rencontrer les experts ». Hodges tend la main par-dessus l'épaule de Jérôme et clique dessus. 3 photos apparaissent. La première est celle d'une jeune fille, visage étroit, cheveux blonds cendrés. Le numéro 2 est un gars joufflu, lunettes à la John Lennon, air sérieux. Numéro 3 est le beau mec générique,
cheveux bruns soigneusement peignés, sourire de commande insipide. Les noms en dessous indiquent Freddy Linklater, Anthony Frobisher et Brady Hartsfield.
Et maintenant ? Demande Jérôme.
Maintenant, on part en virée. J'ai un truc à prendre d'abord.
Hodges va dans sa chambre et pianote le code du petit coffre-fort dans son placard. À l'intérieur, outre quelques polices d'assurance et autres documents financiers, il y a un petit paquet de cartes plastifiées, comme celles qu'il transporte couramment dans son portefeuille, maintenues par un élastique. Les flics de la ville reçoivent une nouvelle carte d'identification tous les 2 ans. Et chaque fois qu'il en recevait une neuve, il rangeait la vieille ici. La différence cruciale, c'est qu'aucune d'entre elles ne porte la mention « retraité » tamponnée en rouge. Il prend celle qui a expiré en décembre 2008, retire sa dernière carte de son portefeuille et la remplace par celle-là. Bien évidemment, la présenter à un quidam est un autre crime. Loi d'État 190-25, usurpation d'identité de policier, crime de classe E, passible d'une amende de 25 000 $, 5 ans d'emprisonnement ou les deux. Mais ces trucs-là ne le touchent même plus maintenant. Il glisse son portefeuille dans sa poche arrière, va pour refermer le coffre, se ravise. Il y a autre chose à l'intérieur qui pourrait lui être utile. Un étui de cuir plat, assez semblable à ceux dans lesquels les habitués des vols internationaux conservent leur passeport. Il appartenait aussi à son père. Hodges le glisse dans sa poche avec le happy slapper.